Je vous attendais, répéta l'homme. Cela ne vous dérange pas que je m'assoie.
Il s'installa avec difficulté sur le lit gris. Paloma remarqua qu'il s'exprimait dans un français impeccable, mais comme elle, avec un accent espagnol marqué.
« Vous êtes Roberto Martinez ?» demanda Bergton. « C'est effectivement mon nom, professeur Bergton.
Vous nous attendiez ?»«
Oui. J'ai essayé de vous dissuader, comme j'ai pu, sans doute très maladroitement. Au fond de moi, je me doutais bien que vous n'étiez pas un homme à renoncer. J'espérais simplement que vous ne résolviez pas l'énigme. Du moins, pas aussi rapidement. J'ai mis pour ma part plus de 10 ans pour arriver ici. Vous avez mis moins de 24 heures. C'est à peine croyable, professeur. »
Bergton garda le compliment pour lui. Paloma ne sut pas si c'était par vanité ou pour la protéger.
« Comment avez-vous eu mon numéro de téléphone portable ?»« Quelle modestie, professeur. En tapant Roland Bergton sur n'importe quel moteur de recherche sur Internet, on accède à plusieurs centaines de références. Sur au moins une dizaine d'entre elles, votre téléphone personnel est indiqué. Vous êtes une célébrité, professeur. »
Bergton sourit.
« Et le trésor ? » demanda-t-il. « Vous l'avez trouvé ? » ?»« Ah, le trésor. Le trésor. L'ai-je cherché ? Ou ai-je cherché simplement à protéger son secret ? Est-ce que je le sais moi-même ? Tenez, regardez, dans le premier tiroir de la table. »
Bergton s'avança vers la table sur laquelle étaient posés quelques livres et cahiers. Il ouvrit le tiroir et en sortit une vieille photographie en noir et blanc.
« Le vieux calvaire de l'éperon, » déclara Roberto Martinez. « Jeté par les Allemands au-dessus de la falaise en 1942. Mais si vous preniez une loupe, vous verriez sur cette photographie, sur le socle, gravés dans le grès, les lettres DF, les triangles, les nombres 44 et 357. Le véritable code de l'aiguille. »
Bergton reposa la photographie. On entendait la mer battre la falaise. On avait l'impression que la salle elle-même en tremblait. Mais ce n'était bien entendu qu'une impression.
« Qui êtes-vous ? »
demanda brusquement Paloma, agacée.
Roberto Martinez parut surpris par l'accent espagnol de Paloma.
« Vous êtes la petite de l'office de tourisme de Saint-Valery-en-Caux, celle qui a trouvé la couronne d'or. Je ne savais pas que vous étiez espagnole, vous aussi. »«
Qui êtes-vous ? »
répéta fermement Paloma.
« Mon identité a peu d'importance. Je pense que vous serez plus intéressé par celle de mon père. Finalement, ça me fera du bien de parler de tout ceci, au moins une fois. Maintenant que vous êtes parvenu ici, et si rapidement, de toutes les façons, vous découvrirez tout. Vous ferez ensuite ce que vous voudrez de cette vérité. Pendant un long moment, j'avais pensé vous tuer. Mais même si j'avais trouvé le courage, je n'en aurais guère les moyens. »
Il partit dans un rire sinistre.
« Votre père faisait partie des 12 trafiquants ?» coupa Bergton. « Oui. Vous savez donc déjà beaucoup de choses à ce que j'entends. Vous êtes un homme doué, professeur Bergton. Votre réputation n'est pas usurpée. Mon père était un pêcheur cauchois, un pêcheur anonyme. Au début du siècle, lui et quelques amis, tous marins comme lui, eurent l'idée d'organiser un trafic d'opium entre l'Angleterre et la France. Ils étaient 12, tous jeunes, célibataires, ambitieux, comme mon père. Mon père m'a expliqué que pour eux, ce n'était pas vraiment un crime. À l'époque, la drogue, ce n'était pas comme maintenant. C'était seulement un luxe pour bourgeois fortunés. On ne savait pas tout. Et c'était en vente libre en Angleterre. Pour eux, c'était presque un jeu, passé sous le nez des douaniers. Un jeu qui leur rapporta une fortune,
précisa Bergton.
Un jeu qui transforma leur vie en enfer. En quelques années, ils amassèrent un magot invraisemblable, inespéré. Une véritable fortune. Ils n'y touchèrent presque pas, pour ne pas éveiller l'attention. Ils n'étaient que des pêcheurs qui menaient une vie modeste. Ils savaient que c'était une question d'années, de mois peut-être. L'Angleterre, comme les autres pays du monde, allait interdire la consommation d'opium. Les journaux en parlaient. Le trafic serait alors stoppé. À ce moment-là, ils se partageraient le butin, changeraient de vie. À ce moment-là seulement. En attendant, tant que la poule aux œufs d'or pondait, ils amassaient.
Roberto Martinez fit une pause. Il toussa. Sa toux résonna étrangement dans la grande salle, en un écho étrangement trop bruyant. Martinez saisit une bouteille de calvados rangée sous son matelas et s'en servit un petit verre. Il en proposa à Bergton, qui refusa.
« En 1913, » reprit Martinez, « en 1913, ils se sont tous fait prendre, en bas de l'échelle Saint-Martin, dans le Val. Leur trafic avait pris un peu trop d'ampleur. Les douaniers étaient sur les dents. Ils furent condamnés quelques mois plus tard. Moins d'un an après, la guerre éclatait. Comme la plupart des autres prisonniers, ils furent envoyés au front, en première ligne, comme chair à canon.
« Combien en revinrent ?» demanda sombrement Bergton.
« Un seul, mon père. Les 11 autres périrent, dispersés sur l'ensemble du front Est. Mon père ne connaissait qu'une partie de l'emplacement du trésor. Chacun n'en connaissait qu'une partie pour éviter que l'un d'eux ait la tentation de trahir les autres. Revenu de la guerre, il le chercha sans succès. Il n'était sans doute pas assez malin. Il était pauvre. Il traînait derrière lui un passé de criminel. Il décida de s'engager dans la guerre d'Espagne quelques années plus tard pour quitter définitivement le pays de Caux. Sa terre de malheur. Il refit sa vie en Espagne. Ou plutôt, il la fit. Il changea de nom, il se maria. Il eut 5 enfants. Je suis l'aîné. Je suis le seul à qui il ait raconté son destin. Il l'a fait avant de mourir, il y a une 20aine d'années. Il est mort en me laissant ce seul message. Maurice Leblanc, l'écrivain, s'était intéressé à l'histoire de ses 12 complices. Il avait enquêté, questionné, deviné. Il savait. Tout était contenu entre les lignes des aventures d'Arsène Lupin. Mais mon père n'avait pas fait d'études. Il savait à peine lire. Il avait été incapable de décrypter le code Lupin.
Roberto Martinez fut saisi d'une nouvelle quinte de toux. Bergton eut presque l'impression que les murs en tremblaient. Le vieil homme trempa à nouveau ses lèvres dans le calvados. Paloma demeurait étrangement muette, saisie d'une puissante sensation de malaise. Roberto Martinez continua son récit.
« Je suis revenu en France il y a une 15aine d'années à ma retraite. Comme je vous le disais, j'ai mis plus de 10 ans à arriver ici sur l'éperon. À comprendre. 10 ans. À arpenter le Caux dans les traces de Lupin. Cette quête m'a au moins permis de me créer quelques fidèles amitiés. »
Un sourd grondement se fit entendre sous leurs pieds, comme si un véhicule souterrain se déplaçait sous eux. Ils se regardèrent, inquiets, mais aucun ne prit la décision de sortir du bloc de béton. Paloma, surtout, semblait suspendue aux paroles de Martinez.
« Comment s'appelait votre père ?» demanda-t-elle soudain.
« Martin. Martin de Roberto. Notre famille descend sans doute d'un quelconque obro cauchois. Elle a habité pendant des siècles le petit village de Roberto, à une 20aine de kilomètres de là. Plus exactement, j'habite le hameau de La Folie, à 1 kilomètre de Roberto, au-dessus de la Durdan. Je l'ai indiqué dans mes messages. La Folie. J'ai pensé que cela vous effraierait peut-être. »
Il partit dans un petit rire grinçant. Bergton le coupa.
La Folie, Roberto. Un village dont le bourg le plus proche est Héricourt en Caux. Vous étiez au bar d'Héricourt il y a quelques heures.
Oui. Un peu par hasard. C'est un lieu où je passe beaucoup de temps depuis une dizaine d'années. Un peu aussi aujourd'hui, parce que la route du trésor pour vous passait forcément par là. Je vous ai observé. Je suis sorti. J'ai tenté une ultime manœuvre de dissuasion. Puis je suis venu ici en voiture. Vous attendre. Au cas où.
Il voulut à nouveau saisir son verre de calvados, mais sa main tremblante le renversa.
« Quel nom a pris votre père en Espagne ?» demanda à nouveau brusquement Paloma.
« Martinez. Il a simplement transformé son prénom, et il m'a prénommé Roberto, en souvenir de sa Normandie natale. »
Soudain, Bergton comprit le sens des questions de Paloma. Un vertige le saisit. Un nouveau grondement retentit dans les entrailles de la falaise. De la poussière tomba des murs de la salle. Le tremblement des flammes des cierges, pendant de longues secondes, confirma que ce n'était pas une illusion. Le blockhaus avait bien tremblé.
« Il faut sortir !» cria Bergton.
Paloma ne broncha pas. Pas plus que Roberto Martinez.
« Comment s'appelaient vos frères et sœurs ? »
demanda-t-elle d'une voix blanche. Sans demander d'explication, Martinez répondit.
Mes trois frères s'appelaient Juan, Emilio et Vicente. Seuls Juan et Vicente sont encore vivants aujourd'hui. Ma sœur s'appelait Eva.
Paloma griffa jusqu'au sang ses ongles sur le béton.
Vous savez ce qu'elle est devenue ?
Elle s'est mariée, assez jeune, avec un professeur de lettres. Ils sont partis vivre en Murcie.
Bergton observait avec terreur la poussière qui tombait désormais de façon continue des murs. Quelques cierges gisaient à terre, éteints. La falaise bougeait. C'était désormais une évidence. Il voulut hurler une nouvelle fois, mais ses mots restèrent bloqués dans sa gorge devant le visage glacé de Paloma.
« Vous connaissez le nom de son mari ?»«
J'étais à leur mariage. C'est ensuite que l'on s'est perdu de vue. Il s'appelait... « Carlos Cortés. »
Paloma donna un grand coup de poing dans la paroi de béton, devant les yeux épouvantés de Bergton.
« Et ensuite ?»«
Je sais juste qu'ils ont eu une fille. J'avais reçu un faire-part. Je ne l'ai jamais revue. J'étais en Galice à l'époque. Ils n'ont pas eu de chance. Ils sont morts assez jeunes. Leur fille aussi. Je ne me souviens même plus de son nom. »«
Francia. »
dit doucement Paloma.
Francia ? Comment savez-vous ?
Martinez ne termina pas sa phrase. Il chercha à dévisager attentivement Paloma dans la pénombre. C'était difficile, quelques nouveaux cierges venaient de tomber et de s'éteindre. Bergton hurla.
Il faut sortir, Paloma, réveillez-vous !
Sans l'écouter, Paloma passa lentement ses mains derrière son cou et dégrafa son collier. Elle le posa au creux de sa main et s'approcha de Roberto Martinez. Elle sentit le dodécaèdre de cristal chaud au creux de sa paume. Martinez se leva du lit gris avec difficulté. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Paloma admira les yeux très noirs de Roberto, un regard fier et noble. Elle fit glisser le collier dans la paume de Roberto. Il baissa les yeux. Une larme coula sur sa joue fripée.
Le collier d'Eva. Le collier que mon père offrit à ma sœur, Eva.
Pour son 12e anniversaire, compléta Paloma. Et qu'elle-même offrit à sa fille Francia lorsqu'elle eut 12 ans.
Francia.
Ma mère.
Un bloc de béton de près d'un mètre se détacha du plafond et tomba sur la petite table, la brisant d'un coup, dans un vacarme assourdissant. Paloma et Roberto se retournèrent, surpris. Bergton en profita. Il hurla
« Dehors, nom de Dieu, vite !»
Il attrapa vigoureusement Paloma et Roberto, chacun par un bras, et les traîna hors de la pièce. Le sol du blockhaus commençait à s'incliner en direction du précipice. Bergton hurla à nouveau.
« Vite, courez !»
Paloma s'aperçut que Roberto était incapable de courir.
« Aidez-moi »
cria-t-elle à Bergton.
Ils prirent chacun un bras de Roberto et commencèrent à marcher le plus rapidement possible dans les galeries. Sans se soucier de se râper les épaules et les mains contre les parois obscures, Roberto les guida d'une voix rauque.
« À droite, et ensuite encore à droite !»
Ils sentaient la poussière de béton leur blanchir les cheveux. Enfin, ils aperçurent une lueur. Quelques points lumineux dans le noir, des étoiles, le ciel, la sortie. Le grondement s'intensifia derrière eux, mais ils ne se retournèrent pas. Ils gravirent la fin de la galerie. Bergton se précipita le premier. Il se cogna violemment le crâne au plafond trop bas de la dernière galerie. Il étouffa un juron et continua sans défaillir, entraînant Roberto et Paloma. Quelques minutes plus tard, ils sentaient l'herbe mouillée sous leurs pieds et l'air frais du plateau sur leur visage. Paloma et Roberto soufflèrent.
« On ne s'arrête pas !»
hurla Bergton.
« On est à quelques mètres de la falaise, tout peut basculer à la mer d'un instant à l'autre !»
Empoignant Roberto et Paloma, il les entraîna dans une nouvelle course. Ils avaient à peine franchi une cinquantaine de mètres lorsqu'ils sentirent derrière eux un souffle immense, puis presque immédiatement une explosion d'une violence inouïe. Ils se retournèrent et constatèrent avec stupeur que plus d'une dizaine de mètres de falaise s'était effondrée derrière eux, basculant de plus de 70 mètres sur la plage en contrebas, des tonnes de calcaire et de béton. Par prudence, ils s'éloignèrent encore de la ligne de la mer. À leur côté, quelques vaches, réveillées, semblaient regarder tout aussi incrédules qu'eux le vide à la place de l'herbage où elles paissaient quelques instants plus tôt. Du haut du plateau, ils disposaient à nouveau d'une vue somptueuse sur la grande vallée de la Durdan et le front de mer de Veulettes-sur-Mer. Le versant opposé de la Durdan s'alluma de centaines d'étoiles. Les riverains qui s'éveillaient surpris et s'alarmaient de cet extraordinaire vacarme nocturne. Bergton fut étonné de la rapidité à laquelle l'alerte fut donnée. Mais il se souvint que le village de Veulettes-sur-Mer était situé à 1 kilomètre de la centrale nucléaire de Paluel. Les habitants étaient entraînés à de telles alertes. Ils devaient sans doute être rassurés que l'explosion gigantesque n'ait rien à voir avec la centrale, ne concerne que quelques tonnes de calcaire et de béton. Quelques instants plus tard, le hurlement de la sirène des pompiers déchira la vallée. Le pont rouge se trouva éclairé par la lumière électrique des gyrophares, qui rappelait étrangement celle du casino de l'autre côté de la digue. Les pompiers, efficaces, établirent rapidement un cordon de sécurité pour contenir la foule de badauds qui accourait sur la digue. Paloma, Bergton et Roberto regardèrent l'agitation de loin. Ils se sentaient épuisés, conscients seulement maintenant du danger auquel ils venaient d'échapper. Paloma serra longtemps dans ses bras son grand-oncle, Roberto. Elle regarda Roland Bergton, silencieux, recueilli. Un léger filet de sang coulait de son front. Paloma délaissa son grand-oncle, sortit un mouchoir et épongea avec douceur le front du professeur. Bergton, à son tour, serra la jeune Espagnole dans ses bras. Sur l'autre rive de la Durdan, le carillon de l'église sonna minuit.
« Vous allez finir par rater votre avion, professeur ?»
lui glissa doucement Paloma à l'oreille.